Amis auditeurs, bienvenue à vous tous. Nicole à ce micro, je vous retrouve pour notre émission Lire et méditer. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un livre de la série « Prier 15 jours avec », notamment un saint. Nous en avons déjà présenté quelques-uns et mon coup de cœur pour cette semaine, c'est celui réalisé par Sylvie Bernet, « Prier 15 jours avec les amis des Juifs ». Tout d'abord, deux mots sur Sylvie Bernet. C'est une laïque consacrée dans la communauté de l'Emmanuel depuis 1985. Agrégée d'histoire-géo, elle enseigne en collège et lycée à Paris. Elle a soutenu une thèse de doctorat d'histoire contemporaine à la Sorbonne sur le sujet de l'Église catholique et la persécution des Juifs pendant l'occupation en France, 1940-1944, entre incompréhension et sauvetage. Alors, qui sont les amis des Juifs ? Ce sont des catholiques qui les ont soutenus pendant la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale. C'est un véritable ami reste fidèle au cœur de la détresse. Le cardinal Jean Verdier, le père Marie-André Dieu, le père Joseph Bonsirvin, Jacques Maritain, Mgr Georges Chevreau, le père Pierre Chaillet, le père Henri de Lubac, le père Joseph Marc Guillère, le cardinal Emmanuel Suard, le cardinal Jules Géraud Saliège et enfin le pape Pie XII ont intercédé pour les Juifs persécutés. Le chemin de réconciliation s'est ouvert en prémisse avec Nostra Aetate. Alors j'ouvre une parenthèse pour rappeler bien sûr que Nostra Aetate est la déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes comme le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et autres. Pendant cette période donc dramatique, ces chrétiens ont secoué les consciences afin de sauver des vies humaines tout en dévoilant la profondeur de la fraternité qui trouve sa source en Dieu, le Père commun de tous les hommes. Bien sûr, les témoins, les catholiques que cite Sylvie Bernet, cette liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Et peut-être j'aurai le temps de vous dire un petit mot à la fin. Tout d'abord, sachez que ce petit ouvrage, donc « Prier 15 jours » aux éditions Nouvelle Cité, c'est toujours très remarquable sur différents saints, découvrir la spiritualité, et aussi méditer jour après jour sur certains traits qui peuvent nous aider aussi à grandir dans notre foi. Sachez que, en tout cas, que cet ouvrage, ce livre écrit par Sylvie Bernet, est le fruit de 7 ans quand même de recherche qui ont conduit notre auteur à soutenir une thèse de doctorat d'histoire sur l'Église de France face à la Shoah. Voici ce qu'elle nous en dit. « Au-delà de l'étude historique des faits, j'ai découvert le visage de nombreux catholiques inconnus qui ont accompagné les Juifs pendant les années noires. L'idéologie du sang et de la race a entraîné le monde dans la plus redoutable des guerres que l'humanité ait connue. Elle a coûté la vie à environ 6 millions de Juifs. Contrairement à bien des idées reçues, ces catholiques n'ont pas gardé le silence. Ils ont alerté les consciences et sont devenus les amis d'Israël qu'ils ont soutenus au cœur de la détresse et de l'opprobre. » Ce petit ouvrage fait découvrir la prière de ceux qui se sont émus de ce drame entre 1933 et 1943. Leur amour de l'Église et du judaïsme a habité ma prière, nous dit Sylvie Bernet. Ils se sont penchés sur l'humanité blessée et l'ont appelé à dépasser la haine par l'offrande de soi et par la charité. En refermant ce livre, amis juifs ou chrétiens, puisses-tu t'émerveiller du mystère propre à chacun. Paix sur Israël. « Au seuil de ces 15 jours de prière, j'aimerais inviter le lecteur à mieux comprendre cette période difficile de notre histoire contemporaine. Certes, l'antisémitisme semble recouvrir l'Europe entière, et pourtant, des lueurs se sont allumées. Dès 1933, les instances du judaïsme français ont souhaité mobiliser l'opinion publique au moment du boycott des magasins juifs qui avait suivi l'avènement d'Hitler au pouvoir. Seul un front interconfessionnel, unissant juifs et chrétiens, pouvait à leurs yeux rappeler la loi naturelle, l'unité du genre humain et l'impossible antisémitisme pour un chrétien. Profondément hostile au christianisme, le nazisme s'est vite affranchi des limites imposées par la loi morale. Bon observateur de l'antisémitisme allemand, Emmanuel Berl, rédacteur en chef du mensuel de l'Alliance israélite universelle Paix et Droit, fait le constat de l'impuissance du rappel de la loi face au nazisme. La doctrine raciste foule aux pieds de la charité. Pendant cette période qui s'étend de l'avènement d'Hitler au pouvoir à l'apogée de la déportation des Juifs d'Europe, l'Église de France n'est pas restée insensible au malheur de ses compatriotes israélites. Beaucoup de catholiques sont devenus leurs amis, les ont accompagnés dans leurs souffrances. Ils ont voulu aimer les Juifs et faire disparaître la barrière de haine qui semblait les séparer. Nous aimerions faire mémoire de leur courage et des gestes qu'ils ont posés en vue de la réconciliation. Ce serait un moyen de revisiter les parties obscures de notre histoire à la lumière de la prière. La révélation judéo-chrétienne enseigne que Dieu prend plaisir à dévoiler sa face à travers le temps des hommes. Qui sont ses amis des Juifs ? La méditation de ce livre n'est pas centrée sur un personnage mais sur un florilège d'auteurs. La plupart sont des pasteurs qui souffrent de voir l'humanité défigurée par la lèpre du racisme et de la guerre. Discours, sermons, extraits d'encycliques et émissions radiodiffusées, ces documents sont peu connus et certains même inédits. L'engagement des évêques de France commence en 1933, lorsque certains d'entre eux appellent à la prière pour les Juifs suivant l'antique tradition liturgique du Vendredi Saint. Ils rappellent la loi naturelle inscrite dans le cœur de chaque homme et révélée dans les 10 commandements. Représentatif de l'engagement précoce de ces évêques français contre l'antisémitisme, le cardinal Jean Verdier, qui vécut de 1864 à 1940, archevêque de Paris depuis 1929, se fait le champion de la défense des Juifs. Ne leur disait-il pas en 1939 « Les catholiques resteront jusqu'au bout vos amis à travers les épreuves qui ne dureront pas toujours ». Ces obsèques, le 16 avril 1940, sont un véritable deuil national. Vient ensuite la défaite et l'avènement d'un gouvernement qui prend très tôt des mesures d'exclusion à l'encontre des Juifs. Si le régime de Vichy a mis en place des lois anti-juives très sévères dès le début de l'occupation, tous les membres de ce gouvernement complexe n'étaient pas unanimes sur la mise en pratique de cette ségrégation. Certains se montraient plutôt plus sévères que d'autres. Dans la mouvance plus modérée, le ministre des Affaires étrangères, Paul Baudouin, a demandé conseil aux évêques de zone libre sur les conditions et les limites d'un éventuellement statut des Juifs. Tout en maintenant ses relations avec les instances du consistoire central israélite replié à Lyon, l'épiscopat de zone libre a expliqué la doctrine du double protectorat que le Saint-Siège avait appliqué dans ses États jusqu'en 1850. Il a proposé l'aide de ses œuvres caritatives et a voulu jouer un rôle de médiation auprès du gouvernement de Vichy pour atténuer la rigueur du sort des Juifs. Parmi ces évêques de zone libre, Mgr Jules Géraud Saliège, qui vécut de 1870 à 1956, qui fut archevêque de Toulouse, va déployer une rare énergie pour défendre les droits de la personne humaine. Il est pourtant handicapé par une paralysie progressive du bulbe rachidien depuis 1932. Pendant l'été 1942, il est le premier des 5 évêques de zone libre à lancer une protestation en chaire contre la déportation des Juifs. D'autres pasteurs, à l'instar du pape Pie XII, procèdent par allusion pour dénoncer le génocide dans leurs déclarations. Face aux menaces de représailles nazies ou fascistes, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Le cardinal Emmanuel Suard, qui mourut en 1949, archevêque d'un Paris humilié, essaie d'atténuer les rigueurs de l'occupation allemande. Il préfère agir en secret en faveur des victimes. Les services sociaux de l'archevêché de Paris prêtent leur concours aux œuvres juives pour cacher des enfants dans des familles chrétiennes après la rafle du Veldiv, mais le CIPOSD interrompt brutalement cette filière de secours en déportant à Auschwitz les sauveteurs juifs du comité de bienfaisance en juillet 1943. Au-delà de l'horreur de Drancy, qu'il a approché de près, le cardinal Suard s'est fait le consolateur des Juifs qui sont venus lui demander de l'aide. À un autre niveau, les Amis des Juifs sont ces philosophes et théologiens français qui appréhendent le judaïsme sous l'angle du mystère, à la lumière de l'élection divine, puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Jacques Maritain, qui mourut en 1973, l'époux de Raïssa, juive russe convertie au catholicisme, est le chef de file de cette génération philosémite. Après avoir mêlé leur voix à celle des autres orateurs pendant les meetings qui dénoncent les pogroms et le boycott des commerces juifs en Allemagne, plusieurs d'entre eux forment un front philosémite qui s'exprime dans la revue des Pères de Sion, le bulletin catholique de la question d'Israël. Le père supérieur, Théomir Devaux, qui mourut en 1967, a contribué à orienter cette congrégation fondée par les frères Ratisbonne vers la prière pour l'illumination d'Israël. Leur maison mère, à 68 rue du Notre-Dame-des-Champs, devient le foyer parisien des philosémites catholiques qui fréquentent certains curés parisiens comme Mgr Georges Chevreau, qui mourut en 1958, ami du cardinal Verdier, prédicateur du carême à Notre-Dame de Paris, de 1937 à 1940. Parmi d'autres membres de ce cercle philosémite, citons le père Marie-André Dieu, qui mourut en 1955, prêtre de l'oratoire, prédicateur de renommée internationale. Il s'exprime notamment à Radio Paris. Ses sermons ont souvent pour sujet Israël et l'Église. Vient ensuite le jésuite Joseph Bonsirvin, qui mourut en 1958, spécialiste de l'exégèse rabbinique et du Talmud. Son engagement intellectuel et pastoral aux côtés des Juifs lui a valu de nombreuses déconvenues. Ses recherches novatrices en exégèse comparée des écrits rabbiniques et néo-testamentaires ne sont pas reçues dans le contexte de la crise moderniste du début du siècle. En 1910, il n'a pas pu soutenir sa thèse de doctorat sur le sujet. Et après la Première Guerre mondiale, il entre dans la Compagnie de Jésus, où l'on suit avec attention ses travaux. Il enseigne l'écriture sainte à la chaire du Scholastica d'Angers, de 1926 à 1940. Ses nombreuses publications scientifiques qu'il sait mettre à la portée du grand public ont contribué à changer le regard des chrétiens sur le judaïsme, dont il souligne la très haute valeur religieuse. Alarmé par le déploiement de l'antisémitisme en Europe après la nuit de Cristal, le cardinal Verdier l'invite à prononcer plusieurs conférences à la Faculté catholique de Paris. À Lyon, certains théologiens de la mouvance jésuite s'engagent aux côtés des Juifs. Grand ami du père Henri de Lubac, le père Pierre Chaillet est un spécialiste de la théologie catholique allemande. Au cours de ses multiples séjours en Autriche, il est témoin de la montée du nazisme et dénonce le sort tragique des Juifs autrichiens après l'Anschluss. Le père Chaillet sait joindre l'acte à la pensée. Et puis, bien sûr, dans cette introduction, Sylvie Bernet va reprendre d'une manière plus large encore d'autres témoins, d'autres acteurs, des amis des Juifs. Mais je voudrais donc maintenant, si vous le voulez bien, mes auditeurs, vous donner un exemple dans cet ouvrage, Prier 15 jours, comment ? Mais tout simplement, avec tout d'abord la table des matières, donc la prière pour les Juifs, Israël et l'Église, comment Juifs et chrétiens peuvent-ils fraterniser, les 10 paroles, l'élection d'Israël, le faux prophète, l'unité de la famille humaine, l'amour de Jésus pour sa patrie juive, les chrétiens solidaires du peuple d'Israël, dénoncer le racisme, la condamnation du Père Guillère, la prière de la Vierge Marie, le cri de Mgr Saliège au cœur du drame et qu'il soit un. Eh bien, je vais prendre le cri de Mgr Saliège, notamment, pour vous donner un petit peu la formule. On le retrouve au 13e jour, donc chaque jour il y a donc ces différentes thématiques où sont cités tous ceux qui ont agi, tous les acteurs vraiment de cette amitié qui a permis aussi non seulement de dénoncer, mais surtout aussi d'aider et de sauver. Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu, on ne peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères, des mères soit traité comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Ressébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut pas l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon affectueux dévouement. Alors voilà cet extrait. Eh bien, c'est en 1942, le 22 août 1942, que Mgr Jules Géraud-Saliège dicte ce texte lorsqu'il apprend les conditions terribles dans lesquelles des internés juifs d'origine étrangère ont évacué les deux camps situés aux portes de Toulouse. Femmes, enfants, vieillards, malades ont été entassés dans des wagons à bestiaux après une pénible marche sous un soleil écrasant afin de contourner les lieux habités. À la demande du préfet régional qui pensait empêcher la lecture de la lettre, Mgr Saliège a concédé la correction de deux mots de son message. Il a fait remplacer les scènes d'épouvante par des scènes émouvantes et le mot « horreur » par « erreur ». Nous avons choisi d'en donner la version originale afin de pénétrer notre prière de l'énergie de ce prélat handicapé. Une paralysie progressive lui rendait en effet l'élocution très pénible. L'exode qui précède l'invasion du pays en mai 40 a précipité sur les routes de France des milliers de réfugiés. L'Europe en détresse aboutit dans le Midi toulousain. Des Belges, des Hollandais, des Polonais, des Tchèques, des Hongrois campent dans la gare de Toulouse en juin 1940. Beaucoup d'entre eux sont juifs. Ils demandent de l'aide au nom du droit d'asile. Ils fuient l'avancée de l'ennemi. Certains trouvent refuge chez les agriculteurs de la région. Après l'armistice, le préfet régional de Toulouse préconise l'internement de ces étrangers qui ne peuvent franchir la ligne de démarcation. Des filières d'évasion se montent pour les faire passer en Espagne. Depuis l'ouverture des camps destinés à ces étrangers indésirables, l'archevêque de Toulouse se préoccupe de leur sort. Le rabbin Capel et les différentes organisations caritatives juives frappent aux portes de l'archevêché de Toulouse en novembre 1940. L'abbé Alphonse Lagarde accepte pendant quelques mois de résider comme interné volontaire à Noé. Peu à peu, des organisations caritatives internationales essaient d'adoucir le sort de ces prisonniers dont l'avenir est incertain. Depuis Lyon, l'amitié chrétienne du père Chaillet dépêche une jeune étudiante intrépide, Germaine Ribière, au secours des internés du Ressébédou. En cette période de grande pénurie, des assistantes sociales de Toulouse essaient d'approvisionner ces camps où l'on meurt de faim. La collecte effectuée au nom du pape auprès des catholiques américains permet de soulager les besoins urgents en mars 1942. Les autorités religieuses françaises négocient auprès du ministère de l'Intérieur la libération des plus fragiles comme les enfants, les malades et les vieillards. Mais voilà que le gouvernement Laval décide de livrer aux Allemands ces étrangers juifs. Les camps de Gurs, de Rivesaltes, de Noé et du Ressébédou, des Milles, de Nexon, sont vidés début août 1942. Entassés dans des wagons à bestiaux réunis au camp de Drancy, ces hommes et ces femmes entreprennent le long voyage vers une destination inconnue. C'est un souvenir bien cruel dans l'histoire de notre pays, réputé avant la guerre pour son généreux droit d'asile. Ces populations européennes réfugiées recherchaient la protection de notre sol. Le gouvernement de Vichy, pris dans l'engrenage de la collaboration, a décrété leur expulsion brutale. On sait maintenant que ces Juifs ont été immédiatement gazés lors de leur arrivée au camp d'Auschwitz. Le cri de Mgr Saliège n'a pas arrêté le bras des persécuteurs. Laval s'est prêté au chantage du CIPO-SD. Il a ordonné aux journaux de zone libre de publier un rectificatif désavouant la solidarité chrétienne envers les Juifs au nom d'une prétendue doctrine de l'Église. La police française a continué les opérations de rafle Et pourtant, le Saint-Siège a proclamé sur les ondes de Radio Vatican, le 14 septembre 1942, à l'occasion de la fête de la Sainte Croix, ceux qui font le signe de la croix et qui ne veulent pas reconnaître la dignité de la personne humaine blasphèment le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le régime nazi s'est acharné systématiquement sur les juifs européens, voulant mener à bout la solution finale de la question juive qu'il méditait depuis de longues années. La lettre de Mgr Saliège a connu un grand retentissement. Elle a été diffusée sous le manteau dans le pays asservi, proclamée sur les ondes américaines et anglaises, évoquée dans les discours des Français libres de Londres, recopiée dans des journaux des pays restés neutres. Elle a galvanisé la désobéissance civile du pays. Le cri de Mgr Saliège est une déclaration d'amour envers la patrie dont il espère qu'elle retourne à la foi, l'amour et l'espérance. À sa suite, quatre autres évêques, en coordination avec le nonce apostolique et le Saint-Siège, ont fait lire en chaire des protestations qui dénoncent la déportation des Juifs de leur diocèse. Ce cri, relayé de dimanche en dimanche dans les diocèses de Toulouse, Montauban, Lyon, Marseille et Albi, a fini par obliger Laval à cesser la traque. Ces lettres pastorales remplacent l'homélie du prêtre. Elles sont lues au cœur de la célébration de la messe. L'abomination qui frappe les Juifs occupe la prière des catholiques de France. Le cri de Mgr Saliège a ouvert les yeux des Français sur l'étranger afin qu'ils deviennent le prochain, l'autre moi-même, qu'il faut protéger d'une mort certaine et injuste. L'opinion publique française, indignée par la violence des rafles, a réprouvé massivement la brutalité du régime de Vichy. Beaucoup de Français de toutes opinions et de toutes confessions ont accueilli des Juifs. Souvenons-nous de la puissance de la prière. Voilà, j'ai cité entre autres Mgr Saliège, mais bien sûr dans les autres chapitres, pour chaque jour, c'est vraiment justement ces différentes déclarations qui sont faites de prêtres, du pape également, qui vont modifier, qui en tout cas vont réveiller et inviter les chrétiens à être solidaires des juifs et à les aider. Et pour cela, je voudrais en conclusion faire mention d'un très bel article paru dans France catholique au numéro 3786, qui date du 21 octobre 2022, qui s'intitule « Face à la Shoah, l'Église au secours des Juifs ». Et là, c'est aussi un très bel article qui a été réalisé où, justement, vont être nommés tous ceux qui ont agi vraiment, qui ont agi d'une manière concrète pour sauver de nombreux Juifs. Mgr Pierre Gertier, qui a été fut archevêque de Lyon, primat des Gaules, Mgr Saliège, nous l'avons déjà évoqué, Mgr Paul Raymond, Mgr qui fut évêque de Nice, Mgr Jean Delay, évêque de Marseille, Mgr Gabriel Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, Mgr Jean-Joseph Moussaron, archevêque d'Albi, Mgr Louis de Courrèges, évêque auxiliaire de Toulouse, Mgr Pierre-Marie Théa, évêque de Montauban. Et puis, bien sûr, je ne peux pas passer sous silence ce capucin, le père Marie-Benoît, Pierre Pétel à l'état civil, cet angevin donc au caractère hors norme qui a sauvé 4500 juifs. Voilà, mes auditeurs, je voulais aussi, dans ce coup de cœur sur ce très bel ouvrage « Prier 15 jours avec les amis des Juifs », répondre aussi peut-être à des souffrances que nous vivons en ces temps, en ces jours, devant effectivement le regard que nous portons sur l'étranger. L'étranger, celui qui finalement nous semble toujours très étrange, et nous inviter donc à une relecture profonde de l'Évangile pour découvrir cette solidarité avec tous les hommes, injustement persécutés, souffrant, faim, soif, guerre. et discrimination. Et puis aussi, bien montrer aussi que dans cette église meurtrie, blessée, comme nous l'avons en ces jours, voyons aussi cette église qui sauve ces hommes et ces femmes, ces témoins véritables du Christ à l'œuvre pour rendre plus juste, mais surtout pour faire parvenir ce royaume, advenir ce royaume d'amour du Christ pour toute l'humanité. Voilà, j'espère en tout cas que cet ouvrage vous aura intéressé. Priez 15 jours avec les amis des Juifs. Et puis si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir cette très belle collection, très riche d'ailleurs, très abondante, de Priez 15 jours avec un saint. Je vous en proposerai très probablement d'ici quelques jours. En attendant, bonne et sainte lecture à la semaine prochaine.